Et bienvenue à tous dans cette émission qui empêche de polluer, de réchauffer, de penser en rond, en tout cas qui essaie. C'est au de mon amour avec aujourd'hui à la technique Guillaume Roux et Henri Bérec, assisté cette semaine de Claire-Sophie Collet, de Jean-Christophe Pinaza, et c'est toujours Xavier Pestugia qui réalise l'émission. Tenez, une petite humeur qui fait son festival, version tenue de gala, tapis rouge et vague en plus qui secoue les restaurants et les bars du côté de Cannes. Alors, sauf que comme on l'a vu ces jours-ci sur les marchés financiers, il n'y a pas que des Robin des Bois sur notre petite planète. Avec 8 jours d'avance, donc en avant-première, voici notre palmarès. Le prix du meilleur scénario de science-fiction est décerné à Claude Allègre pour son dernier ouvrage. Toute ressemblance avec des événements réels, du genre changement climatique, serait purement fortuite et involontaire. La preuve par les Saintes Glaces, Saint-Mamère, Saint-Servais et Saint-Pancras, oscillations nord-atlantiques et autres phénomènes météo, faiseurs de temps froid qu'on ne regrettera pas. Le grand prix du verre aux deux tiers vide et un tiers plein va au Grenelle numéro 2 de Jean-Louis Borloo version Mao Tse-Tung qui nous annonçait « N'en déplaise aux inquiets, aux tristes et aux grincheux, les 250 articles du projet seront les 250 fleurs du printemps de l'écologie. Avis donc à nos députés anti-éoliens, pro-pesticides et pro-méga-camions de 44 tonnes qui seraient tentés de nous jouer l'hiver de l'écologie, le retour. » Le meilleur tour de passe-passe quant à lui revient au lobby du nucléaire qui nous ont annoncé ni vu ni connu un amendement qui évitera aux exploitants de centrales nucléaires de passer par la case enquête publique avant d'augmenter leur rejet radioactif et chimique dans la nature. Et pour montrer qu'on n'a pas totalement fait une croix sur le principe de précaution, on en profite aussi pour classer ces redoutables installations que sont les éoliennes dans la catégorie des industries à risque. On n'oublie pas le prix d'interprétation masculine à Lamar McKay, qui est le président de BP aux États-Unis, pour son rôle dans « C'est pas moi, c'est lui », c'était mardi, devant le public pas vraiment convaincu de la commission d'enquête du Sénat. La marée noire dans le golfe du Mexique, vous comprenez, c'est pas de la faute à BP, mais à Transocean, exploitant de la plateforme de forage qui a coulé. Sauf que d'après Transocean, le problème vient de la société Halliburton, qui aurait mal bétonné le puits de pétrole. Ne reste plus à Halliburton qui a accusé BP, et comme ça la boucle est bouclée. Alors, vous voyez, c'est ça, l'avantage de la sous-traitance à tous les états, et qu'on peut passer des années à chercher les responsables. Et puis quand même, on garde le meilleur film pour la fin. Et notre CO2 d'or, eh ben on vous l'offre à vous tous, amis auditeurs, car nous sommes bien d'accord, l'aventure de la vie sur notre petite planète, même si on l'a un tantinet déréglé, eh ben c'est encore mieux qu'au cinéma. C'est donc un magazine, vous le savez, ça veut dire qu'il y a différents chapitres, différentes plages. Il y aura d'abord une plage appartement, on ira dans votre appartement dans quelques instants, vous allez comprendre. Et puis nous partirons aussi en Afrique, nous irons à la fois au Sahel avec l'association Sahel People Service et puis aussi au Bénin. Et dans les deux cas, on verra que le rapport évidemment que l'on connaît entre l'eau, l'agriculture et puis aussi les engrais, qu'est-ce que l'on peut faire aussi sur place. Donc deux initiatives tout à fait intéressantes et puis ça va être aussi le retour en France avec le mensuel Environnement Magazine. On va faire une petite actualité des collectivités avec Charles-Henri Dubail qui est son directeur. Charles-Henri Dubail, bonjour à vous.
Bonjour.
Alors, Environnement Magazine, en fait, s'adresse à qui ?
Initialement, bien sûr, aux entreprises et les collectivités locales, mais également à un public éclairé. Ouais. Et il y en a de plus en plus qui s'intéressent à l'environnement, au développement durable. Et nous, on apporte surtout, on va rechercher les solutions innovation, mais les solutions économiques aussi, ouais. Les solutions politiques qui permettent d'avancer vers ce meilleur qu'on attend tous.
Et tout ceci donc fait une trame et forme un très joli réseau. Je vais vous parler de l'appartement parce que nous allons rejoindre Jean-Marie Pell. Jean-Marie Pell, bonjour.
Bonjour Denis, bonjour à tous.
On s'intéresse aujourd'hui à nos plantes d'appartement décoratives, certes, mais qui vont nous aider à mieux respirer.
Il y a beaucoup d'études qui nous amènent à penser que les plantes d'appartement dépolluent.
Alors ça fait un certain temps déjà qu'on travaille le sujet.
Oui, tout à fait. Et ce qu'on ne sait pas d'habitude, c'est que souvent, l'air des appartements est plus pollué que l'air extérieur parce qu'il y a des émanations, par exemple des colles utilisées pour fixer les moquettes, par exemple les insecticides qu'on pulvérise, les désodorisants aussi, et puis tous ces produits d'entretien et de nettoyage qui émettent des molécules suspectes, souvent très odorantes. Ces produits sont très odorants, ce qui ne veut pas dire qu'ils sont très recommandés. au point que la secrétaire d'État à l'écologie, Madame Joanneau, a créé un corps de conseillers en habitat intérieur.
Il y en a déjà, alors ?
Oui, alors ça existe déjà en Alsace, et leur objectif, c'est d'expertiser les niveaux de pollution des appartements et des maisons, parce que ces polluants sont des facteurs importants d'asthme et d'allergie, et donc ils ont un impact négatif sur la santé. Alors, on savait depuis très longtemps que les plantes, par photosynthèse, dégagent de l'oxygène et fixent du gaz carbonique.
Oui.
Mais maintenant, on voit qu'elles modifient et elles éliminent toutes sortes de molécules suspectes. Ceci a été initié par la NASA, où on a utilisé des plantes pour purifier l'air des vaisseaux spatiaux, et en particulier de la fameuse navette spatiale internationale.
Mais Jean-Marie, est-ce que chaque plante est spécifique ? C'est-à-dire qu'elles vont avoir chacune une spécialité de dépollution, ou bien est-ce qu'elles peuvent toutes faire la même chose ?
Non, elles ne font pas toutes la même chose. Elles ont des spécificités, et chacune s'attaque plutôt à tel polluant qu'à tel autre.
D'accord.
Prenons les Dracaena, tout le monde les connaît, ou les aloès, ce sont des plantes grasses, qui sont d'ailleurs très proches l'une de l'autre, et qui s'attaquent au formol. Alors le formol, c'est un aldéhyde qui est très irritant pour les yeux, c'est ce qu'on emploie dans les pompes funèbres pour traiter les morts, les cadavres,
oui,
et c'est ce qu'on utilise aussi pour conserver dans les bocaux des animaux que l'on a collectionnés.
Alors ça, c'est peut-être pas exactement l'utilisation la plus courante, je dirais, mais les fameux formaldéhydes, on va les retrouver un peu partout quand même.
Il y en a beaucoup.
Oui.
C'est vraiment un polluant très répandu et très allergisant.
On le trouve par exemple dans les bois agglomérés.
Oui, absolument. Dans les bois agglomérés, il y en a souvent. Alors ensuite, il y a le Diefenbachia. Alors ça, c'est une plante qui est aussi très connue, qui parfois, lorsqu'on en met dans la bouche et qu'on le mâche, est extrêmement piquant, comme du poivre, et peut aussi provoquer des allergies très fortes. Alors lui, il élimine le toluène et l'hexylène qui sont souvent présents dans les colles, les vernis et les peintures, et qui, par-dessus le marché, sont considérés comme sans doute cancérogènes. Ensuite, il y a l'anthurium. Alors, l'anthurium, c'est cette espèce de plante qui donne des fleurs qui ne sont pas tout à fait des fleurs, d'un beau rouge avec un axe au centre, qu'on voit dans les corbeilles de mariée parfois. Mmh. Cet anthurium élimine l'ammoniac, aussi un gaz très irritant. Bon, des plantes très connues aussi, comme les ficus, les chlorophytomes, les philodendrons, sont aussi de bons dépolluants, un peu plus généralistes peut-être que les autres. Mais l'action, pour être efficace, elle est proportionnelle à la surface d'absorption.
Ah.
Donc il faut quand même qu'il y ait plutôt beaucoup de plantes et puis plutôt des grosses plantes.
D'accord.
Il ne faut pas que ce soit des petits bouts de choux dans un pot de fleurs.
Il faut des grandes feuilles plutôt.
Il faut des grandes feuilles pour, ouais, que la surface d'absorption soit agrandie.
Alors c'est validé tout ça ou...
Oui, tout ça est validé. Il y a des études très remarquables qui ont été menées là-dessus. Il y a un programme de recherche de l'ADEME, qui est l'organisme spécialisé dans les énergies renouvelables, en particulier dans les économies d'énergie. Cette étude est financée par les régions Pays de Loire, parce que l'ADEME a son siège à Angers, et par le Nord-Pas-de-Calais, parce que le Nord-Pas-de-Calais est toujours assez en avance en ce qui concerne l'écologie, grâce au travail de Madame Christine Blandin, qui a été la seule présidente verte d'une région en France. Il y a d'ailleurs à la faculté de pharmacie de Lille aussi un programme qui est financé par le Centre scientifique du bâtiment, qui est un organisme très important, qui mène toutes sortes d'études dans tous les domaines pour tout ce qui touche au métier du bâtiment. Alors on voit que ici les pots de terre agissent contre le mauvais air, et pour une fois ils affirment leur prééminence sur des pots de fer, parce qu'on ne met pas de pots de fer dans les appartements, et le pot de terre, il sert à quelque chose. Alors c'est un petit peu l'esprit de mon avant-dernier livre, La raison du plus faible, ces petites plantes dont on peut penser qu'elles n'ont pas une grande utilité, sinon à être décoratives, ont en fait une grande utilité du point de vue de la dépollution.
Merci beaucoup Jean-Marie, nous regarderons nos plans d'appartement d'un œil différent, on en mettra davantage et on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir Jean-Marie.
Au revoir Denis, au revoir à tous.
vivante comment j'arrivais jusque là. Au ralenti, au ralement, par danger ou par choix, le temps me laisse passer. Je lui dis après toi, et l'enfant qui m'a fait ne me reconnaît pas. Et j'ai dormi longtemps, souvent, au large de ma voix. Le temps me laisse passer, je lui dis après toi, mais laisse-moi si tu veux bien. De quoi donner ce que j'ai sur moi. Ai-je soufflé déjà tant de vent brûlé, tant de bois, que des jambes et des bras pour gravir encore dix. Il m'en reste à peine, mais il m'en reste assez. Et peu importe qu'il m'amène en bateau, s'il file vite et droit, je le ferai mousse, je le ferai capitaine. Et l'écume m'écumera, me laisse passer, je lui dis après toi, moi je ne fais que passer, toi tu vas plus loin que moi.
Quand il était petit, ce garçon devait s'appeler Jean-Paul ou Jean-Patrick ou Jean-Pierre, je ne sais plus. Et puis voilà, puis crise d'adolescence, vous savez ce que c'est. Donc, non, je m'appellerai JP Nataf. En tout cas, c'est pas mal du tout. Et ça s'appelle donc Après toi sur France Inter, toujours CO2 mon amour. Nous quittons l'appartement avec Jean-Marie Pelt et donc ses plantes dépolluantes. Nous allons aller beaucoup plus loin, puisqu'on va aller à la fois du côté du Sahel et du Bénin. Alors, deux façons d'aider en fait les Africains à reprendre en main leur agriculture. Vous allez voir, c'est à la fois des petites gouttes d'eau sans jeu de mots, mais c'est important parce que des choses donc existent. Une association depuis longtemps s'appelle Sahel People Service. Pierre Guévert est donc le président d'honneur et le fondateur de cette association. C'est un homme qui est agronome de formation. Le Sahel, on le rappelle, hein, c'est un endroit qui fleurissait il y a à peu près 5000 ans. Et s'il vous plaît, Pierre Guévert, avant de nous présenter l'association, resituez-nous le Sahel.
Il s'étend d'ouest en est. D'abord Sénégal, Mali, Niger, Burkina Faso, etc., jusqu'à l'est. Et c'est le désert complet qui avance. Il y a juste quelques baobabs qui restent. Mmh. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas brûler un baobab. Il ne brûle pas, il fume. Heureusement que la nature a bien fait les choses.
Et il y a 5-6 000 ans encore, c'était un endroit qui était fleuri, qui était...
Oui, on découvre même des navires dans certains lacs. Il était vert. On voit encore des vestiges de la très bonne agriculture, des petits champs entourés de forbes, avec un puits au milieu, mais ça a disparu.
Qu'est-ce qui s'est passé justement ? Est-ce que ça a été à la fois des différences de température, des réchauffements climatiques et aussi le travail de l'homme ? Qu'est-ce qu'il y a eu ?
Je pense que ça, le coup de grâce a été donné quand nous sommes partis là, quand les Français sont partis de là en 60. Ils ont fait des accords de monoculture d'arachide avec les paysans sénégalais en disant, voilà, on va vous faire des grands champs, on va remembrer tout ça, les petits champs, ça ne vaut rien, il faut que les tracteurs puissent être rentables, on va vous donner des semences spéciales et des engrais vous allez voir, vous allez gagner votre vie. Malheureusement, au moment de la récolte, les prix avaient tellement chuté. Et au moment des semis, ils avaient monté. C'est le truc classique de nos commerçants que nous sommes, dont je fais partie, malheureusement.
Pierre Guévert, vous êtes donc le président et le fondateur de Sahel People Service.
Oui, exact.
Cette association, que fait-elle?
Eh bien, elle propose des avances de trésorerie au village. On réunit le chef du village et les paysans et on leur dit, si vous aviez de l'eau, est-ce que ce serait pour vous la fin de vos misères? Ils crient tous ensemble, oui, oui, bien sûr, mais comment faire? Il faut payer les puits, on n'a pas l'argent pour payer les puits. Dans le temps, ils avaient de l'eau à 3 mètres avec la bêche. Maintenant, il faut aller entre 6 et 12. Donc, il faut du fer, il faut du ciment. Et pour ça, il faut de l'argent. Donc, nous faisons des avances de trésorerie remboursables en 3 ans. Le chef du village, il cautionne le crédit. Et nous sommes à peu près sûrs de tout retrouver.
C'est-à-dire qu'il y a une responsabilisation du fait que l'on prête de l'argent?
Oui, on ne peut jamais faire de cadeau aux Africains noirs. Ils sont dignes et fiers. Quand on fait un cadeau, ils ne vous aiment pas. Et il faut donnant, donnant. Donc on dit, on vous laisse l'occasion de creuser votre puits, de faire votre oasis, de replanter la forêt. Là, le seul cadeau qu'on fait, c'est donner les plants. On a une pépinière, une énorme pépinière. On leur donne les plants. Pour que ça aille plus vite.
Alors vous faites ça depuis combien d'années?
2003.
Et déjà, les résultats, quels sont-ils?
Les résultats sont absolument extraordinaires, c'est-à-dire que tout le monde veut son puits, tout le monde veut son oasis. Cette année, on va creuser 200 oasis, donc 200 puits, et on a le budget pour ça. Mais si on avait le double du budget, on pourrait faire 400, 500 oasis. C'est à l'infini. C'est facile, c'est une formule qui a réussi.
La clé de cela, c'est ce que l'on appelle l'agroécologie.
Oui, nous avons, Pierre Rabhi nous a beaucoup inspiré. Il a parrainé, bien sûr, notre association. L'agroécologie, l'écologie tout court, c'est un peu urbain, c'est un peu comme ça. Tandis que la vraie écologie, c'est celle de la terre et des forêts.
C'est-à-dire que l'on fait avec la terre, non pas contre elle.
Il faut que chaque personne devienne acteur de l'écologie. Et comme ces acteurs sont des paysans, que nous avons tous été à 90%, il ne faut pas l'oublier, c'est donc au service de la nature à travers l'agroécologie, parce qu'il faut aussi en vivre. Il faut soigner la nature, mais il faut aussi produire pour vivre et nourrir les gens.
Une des clés de compréhension de l'agroécologie, c'est que tout ce qui sort de la terre doit revenir à la terre.
Oui, le cycle biologique veut que toute matière organique utilisée retourne à la terre. S'il y a une interruption dans le cycle, il y a des problèmes de maladie.
Alors comment on fait après pour enseigner donc cette agroécologie? Parce que est-ce que c'est si évident que ça? Donc face aux paysans que vous avez, qui ont creusé un puits, que vous avez aidé, mais après il faut utiliser intelligemment cette eau.
Il y a plusieurs formateurs. Ça ne coûte rien pour les Sénégalais eux-mêmes, mais tous ceux qui viennent de l'étranger payent les stages. Les stages se font très vite parce qu'ils comprennent immédiatement, ils ont encore la main. Ce n'est pas un problème.
Pierre Guévert, que l'on comprenne bien, on travaille donc avec le sol, on travaille avec cette pellicule de vie incroyable qui s'appelle l'humus. On essaie de le reconstituer, cet humus.
Oui, il n'y a plus d'humus parce qu'en plus, ils ont eu un cadeau empoisonné. Ils ont reçu des machines à semer le mil, le sorgho, tiré par un âne. Donc ils font de grandes surfaces en mil, puis ils mettent la poudre blanche, c'est-à-dire l'ammonitre. Et ça pousse à la pluie. La pluie commence, ça pousse, ça va très vite. Et puis ça a soif, parce qu'une plante qui reçoit des sels concentrés chimiques a soif. Et alors la récolte n'est pas bonne. Et pourtant, ils continuent. Pourquoi ils continuent? Parce qu'ils ne savent plus ce que faisaient les gens il y a 30 ans, 40 ans. C'est-à-dire faire du compost au lieu de brûler. Parce que pour faire marcher, pour que la machine à semer puisse circuler, il faut que le champ soit clean. Donc ils brûlent les déchets organiques, les tiges de mil, tiges de sorgho, ils les brûlent.
Alors qu'au contraire, c'est ce que vous récupérez, vous?
Alors nous, on les composte. Après 6 semaines, 7 semaines, il y a une poudre noire qui est l'humus qui sort des compostières. Et ils sont absolument tellement enchantés de voir qu'ils peuvent, avec les matières qui brûlaient, et les bouses qu'ils brûlaient pour cuisiner, qui peuvent faire un engrais extraordinaire, qui ne donne pas soif aux plantes et qui fait tripler la récolte.
Alors, il y a les engrais d'un côté, il y a les pesticides de l'autre. Vous fabriquez aussi des pesticides naturels ?
Oui, évidemment, toute avance de trésorerie est assortie de 5 conditions. Premièrement, aucun pesticide, aucun intrant chimique. Les pesticides sont fabriqués avec le neem, un arbre qui est partout. Le purin de neem est utilisé pour protéger la plante. Ce n'est pas à 100% efficace, mais quand le compost est très bon, il n'y a pas de maladie dans les plantes. Et c'est ça à quoi on doit arriver.
Alors, derrière tout ça, il y a aussi le travail des femmes. C'est extrêmement important parce que aujourd'hui, les corvées de bois et les corvées d'eau sont principalement effectuées par des femmes. On va rappeler qu'en ce qui concerne le bois, on a à peu près 3 milliards d'individus sur Terre qui se chauffent ou bien qui cuisent leurs aliments avec du bois. Donc, problème de déforestation. Qu'est-ce que ces méthodes ont changé localement ?
On fabrique dans le village des fourneaux économes qu'elles payent en 10 mois. Et avec ce fourneau, elles économisent tellement de bois, elles n'utilisent plus les bouses de vache puisqu'on en a besoin, elles en ont besoin pour le compost. Et puis surtout, les oasis, après 3 ans, ont déjà du bois, fournissent déjà du bois. Ce qui fait qu'ils sont autonomes, aussi bien au point de vue alimentaire, mais aussi au point de vue bois, après 3 ans. Parce que ça pousse tellement vite.
Pierre Guévert, ce que je vous propose, c'est peut-être de quitter le Sahel quelques instants. Et puis là, on va partir au Bénin. Alors là, autre aventure, j'allais dire agricole, avec Delphine Bousquet qui nous a adressé ce reportage. Donc là, nous sommes dans l'Afrique de l'Ouest. Le Bénin est voisin du Togo, du Nigeria, du Niger, du Burkina Faso, qui eux sont au nord. On a à peu près 9 millions d'habitants sur 112 000 km². Et là-bas, dans une commune du Bénin, d'une grande commune rurale qui s'appelle Semekpodji, on transforme l'urine et les excréments humains en engrais pour l'agriculture. Alors évidemment, les latrines, les WC, ça nous paraît évident, mais là-bas, pas du tout. C'est quand même évidemment une denrée extrêmement rare. Nous, on a une chance terrible. On fait notre pipi dans l'eau potable. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est ça. Voilà. Alors là, comment ça se passe? Parce qu'on est au cœur à la fois de l'agriculture, de l'environnemental, du social. Reportage donc avec Delphine Bousquet au Bénin, à Semekpodji.
C'est une latrine surélevée au niveau de la dalle de défécation, de la dalle de couverture de la fosse. Le système est tel qu'on arrive à dévier l'urine qui rentre et à partir d'un tuyau, rentre dans un bidon et les fesses tombent dans la fosse en empruntant les trous de défécation qu'on a incorporés. Ce que nous recherchons au niveau de l'urine, c'est l'azote. Parce que l'azote, c'est ça qui permet à la culture de se développer, surtout là où il y a les légumes. Au départ, les gens ont un peu de résistance à toucher même les fesses. Mais quand ils ont compris qu'à partir de 8 mois, que c'est seulement du sable et l'utilisation au champ, ils n'aiment même plus donner ça aux voisins.
Donc la réalité maintenant à Semekpodji, c'est que tout le monde veut l'urine hygiénisée et les fesses.
Oui, les gens viennent demander dans notre bureau si nous avons de l'urine ou bien de fesses, tout comme si nous avons une usine de fabrication de l'urine ou de fesses.
Donc finalement, contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'urine et les excréments sont une denrée rare.
Vraiment une denrée rare actuellement, très rare.
On m'appelle Bonaventure Noati. Je suis venu chercher les extraits chez un ami pour faire la fumure d'entretien aux plantes de canne à sucre.
Parce que vous n'avez pas de latrine chez vous, donc vous venez chez votre voisin pour vous servir.
Oui. Je n'ai pas de latrine chez moi. Je suis en train de m'apprêter pour en avoir parce que c'est très important.
Le champ est à côté ?
Oui, c'est à côté.
On vous suit alors.
Voilà les jeunes plants de canne à sucre. Et je les ai mis en terre, ça fait déjà un mois et demi. Il faut maintenant mettre. Il y avait déjà l'urine que j'avais utilisée par manque de fesses pour fumure de base. Maintenant, comme fumure d'entretien après un mois et demi, je veux mettre les FSS pour continuer. Donc, après ça, nous allons recouvrir de boue et permettre à la pluie de faire tout ce qui reste. Donc, d'ici 4 mois, vous venez ici, vous aurez des pentes de canne à sucre de cette hauteur. Très succulent. Bon, la différence par rapport à l'engrais chimique, c'est que avec les FSS, la canne à sucre est très sucrée et très plus consistante, quoi.
Vous avez constaté qu'avec cet engrais naturel, les résultats sont meilleurs.
Franchement. Parce que pratiquement, je ne dépense rien. Si je devais acheter d'engrais pour ce petit champ-là, il me faut au moins aujourd'hui près de 30 000.
Donc, 30 000 francs CFA.
Pour couvrir tout le champ. Je l'utilise pour dans tous les domaines presque. Palmier. De jeunes palmiers qui donnent des fruits qu'on ne peut même pas imaginer. L'arbre de pin très jeune qui a commencé par donner des fruits. Des papayers de basse taille et qui donnent beaucoup de fruits.
Marina Niançonou, vous travaillez aussi au CREPA et vous parlez goût. Donc vous allez faire la traduction pour nous. On est avec Raphaël Tokpowanou, agriculteur ici à Sémé et qui utilise les engrais naturels. Depuis combien de temps est-ce que M. Tokpowanou utilise les engrais naturels?
C'est depuis 3 ans qu'il a commencé avec le CREPA par la formation qu'il a reçue. Il a constaté que les engrais chimiques rendent pauvre le sol.
J'invite la population à prendre ça en compte pour qu'on ne défèque plus dans n'importe comment dans la bouse. C'est une perte. Quand je défèque, après avoir dépensé pour acheter la nourriture, J'utilise encore pour multiplier mes revenus. Donc, au fait, je ne perds plus rien. Je suis très content même de manger et d'aller déféquer pour que tout à l'heure, je puisse trouver encore manger.
On change complètement de planète hein, avec ce genre de reportage. Et pourtant, évidemment, c'est pas loin. C'est le sort d'un certain nombre de populations encore aujourd'hui. Donc de l'or et de l'engrais dans nos toilettes, dans nos latrines. 250 maintenant latrines familiales ont pu être installées. Aussi un bon nombre dans les écoles. Donc on a compris quel était l'intérêt. Donc tout le monde veut ses latrines, des excréments qui sont devenus donc une denrée rare et donc tout à fait recherchée. Et puis un système de microcrédit qui a été mis en place pour aussi installer ces latrines. On reviendra avec vous dans quelques instants, Pierre Guevert, aussi donc au Sahel, donc avec Sahel People Service. Mais là, je vous propose de continuer en musique.
Give thanks that your heart beats, lungs involuntarily breathe in the air we can't see. Sun shines for everyone, the universe keeps changing. Destiny's in front of you, it's yours for the taking. See the stars don't lie, and if your mind fails, just pause for a second. Tune into yourself, just be. Let go, be free. Let your conscience be your guide. Show gratitude in all you do. Love, light the way, spark the flame burning inside of you. Burning inside of you, you. Las estrellas no mienten y sentimientos, te lo ruego, síguelos, porque todo se resuelve, menos la muerte. Quiero enseñarte la belleza del mundo, compartir de mis sueños, porque en la vida hay que disfrutar los momentos alegres y también la tristeza.
te doy gracias por esto, que el amor siempre triunfará.
Choisi par notre programmatrice Muriel Pérez, c'était donc le groupe Tribeca qui interprétait Fats sur France Inter. Alors après ce reportage au Bénin signé Delphine Bousquet, où on a vu donc ça mêlait à la fois le côté sanitaire, le côté social, agricole et environnemental. Pierre Guevert, moi je reviens vers vous, donc avec Sahel People Service. Là aussi il y a un projet de société, hein, donc un rendez-vous avec l'autonomie, avec la souveraineté alimentaire, donc grâce à cette culture vivrière. Et en fait on ne fait pas à la place des gens.
Tous ceux qui ont voulu faire montrer, donner des leçons là-bas ont échoué. Nous, on ne fait que leur rappeler leur tradition que nous avons aidé à éradiquer. Mais il y a quand même une chose incroyable. La machine à semer est remplacée par le « ou ». Quand on dit ça à un occidental, il dit « mais vous êtes fou, personne ne veut employer une houe, ça, c'est terriblement fatigant ». Eh bien non, ils font des trous qui servent plusieurs années, ils remplissent ce trou de compost, ils mettent la semence et ils ont trois fois la récolte des grands champs avec moins de travail, avec plus de travail à cause de la houe, mais une fois que c'est fait pour un deux ou trois ans.
Derrière tout ça, ce sont aussi des jeunes qui vont rester au village grâce à ces cultures vivrières.
Oui. Il n'est plus question à aucun jeune fille ou garçon de penser partir. Partir est une peine terrible, c'est une douleur dans la famille. Ils doivent sacrifier un enfant parce qu'il crève. Et maintenant, c'est fini. Et nous sommes un peu embêtés de ne pas avoir de réponse du ministère de l'immigration français. Nous disons dans nos lettres qu'avec très peu de moyens en amont, on résout toutes les questions d'immigration. Ces gens sont au contraire, ils veulent absolument rester. Ils reviennent de la ville à la campagne massivement plutôt que de partir. C'est merveilleux.
Qu'est-ce qui vous plaît et qu'est-ce qui vous a animé? Parce que ça fait vraiment des années, ça fait 50 ans que vous travaillez sur ces thèmes-là. Et en même temps, qu'est-ce qui vous donne espoir, vous Pierre Guevert, parce que vous voyez tout ceci évoluer?
L'Africain noir est très touchant. Moi, j'ai connu des Africains noirs qui venaient jouer du jazz dans les années 50. Et puis, on y est allé, on a trouvé que cette mentalité était extraordinaire. Et on a dit, j'ai commencé au Burkina Faso il y a 25 ans, mais avec une méthode qui n'était pas celle. Il a fallu beaucoup de temps pour comprendre les vrais besoins et les vraies méthodes sans devoir faire de cadeaux. Tout est là.
Vous vous donnez les moyens de se réaliser, de s'approprier de nouveau ce sol avec une autre méthode.
Je vais donner un exemple. Si on clôture un art de terre, on empêche les animaux de paître. Eh bien, il sort du sable des plantes des petites plantules qui sont des arbres locaux que les chèvres tous les jours viennent brouter. Dès que ça sort, on ne le voit même pas. Elles ont l'instinct, elles broutent. Donc il faut clôturer contre les divagations animales. C'est pour ça qu'on dit oasis. Faire une oasis, 1-2 hectares, un puits au milieu, c'est gagné.
Même sur un sol extrêmement ingrat, pauvre ou en tout cas peut-être riche et puis qui est devenu pauvre après, on peut faire refleurir justement encore un peu ce désert.
Mais absolument, la terre n'est pas aussi... Si, elle est très durcie, terriblement durcie. Mais on se rend compte qu'elle régénère après une saison de pluie et avec un outillage comme la houe ou bien un sous-solage léger avec les bœufs ou une scarification avec un âne ou un petit cheval, ça revit rapidement. Il y a le soleil et dès qu'il y a de l'eau, ça revit très vite.
Alors nous savons, Pierre Guévert, que nous sommes les uns les autres tout à fait inégaux, à la fois face au malheur, face au sol et aussi face au réchauffement climatique. La zone subsaharienne, malheureusement, risque d'être touchée davantage. On risque d'avoir des écarts encore plus importants peut-être qu'ailleurs que dans les pays tempérés.
Les dernières réunions internationales ont démontré combien ces gens vivent dans une fragilité extraordinaire face au changement du climat. Et notre ambition, ce serait... avec la multiplication des oasis, de commencer à retrouver un peu d'équilibre dans le climat. C'est-à-dire que les pluies viennent à temps, ne sont pas trop fortes ou trop faibles. Il y a toujours, c'est toujours les extrêmes avec lesquels on vit maintenant. Et ça, ce sera le cas quand on aura 5000 oasis. Il est sûr que ce climat local, microclimat, sera bon, il sera viable, il entraînera les autres à faire pareil.
Dans un ouvrage que vous avez écrit qui s'appelle « La famine mondiale est imminente », c'est aux éditions Alphée, et puis donc préfacé par un homme qui s'appelle Philippe Desbrosses, qui est vraiment un des promoteurs de l'agriculture biologique en France. Vous écrivez dans cet ouvrage qu'en fait, il faut passer d'un mode de prédation à un mode de restauration. Mm-hmm. Les mots clés pour que l'on comprenne bien, qu'est-ce que c'est ?
Tout est une affaire de terre. Le sol a été négligé. L'urbanisation, l'industrialisation a fait que les lois sont faites pour le monde urbain et pour l'industrie. Et on a complètement négligé le paysan, qui est le jardinier, qui est celui qui est garant de la pérennité de la nature, celui qui soigne. Et on n'a plus de paysans. Les paysans, ce qui reste, ce sont des exploitants. Donc ils doivent exploiter à mort, sinon... leurs productions sont au-dessus du prix de revient, ce qui est toujours le cas encore. L'agriculture biologique, malheureusement, ne fait que 2,2% en France. La FAO, qui s'occupe de l'agriculture et de l'alimentation, a dit il y a un an, il y a 6 mois, la seule solution pour éviter une famine mondiale généralisée, c'est revenir à l'agriculture familiale. Donc ils disent le contraire de ce qu'ils disaient il y a 5 ans ou encore, ou 2 ans, où il fallait industrialiser l'agriculture.
Qui a été poussée par le FMI d'ailleurs aussi.
Poussée par la Banque mondiale et le FMI. Et maintenant, ils ont pris conscience, et c'est énorme, on se demande si ce n'est pas trop tard.
Qu'est-ce qui vous motive, Pierre Guévert, depuis tout ce temps ?
Mais ce qui motive, c'est tellement gratifiant quand on voit des gens qui vous remercient, qui disent 40 fois merci, qu'on s'enfuit parce que c'est gênant. Mais quand même, ils sont tellement contents que ça fait plaisir et que je pense que c'est un moyen de vivre peut-être longtemps, je l'espère.
Un homme qui lutte contre la résignation, donc Pierre Guévert, ça nous fait du bien. Voilà, oui, il faut le dire. Ça ne sauve pas le monde, forcément. Peu importe, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui font, et ça, c'est aussi important. Alors, des gens qui font aussi, c'est dans Environnement Magazine, c'est dans quelques instants. On va sur une petite actualité, comme ça, on va picorer dans le monde des collectivités avec Charles-Henri Dubail.
Call love, but confess you've been a messin' where you shouldn't have been a messin', and now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days, these boots are gonna walk all over you. Yeah. You keep lying when you ought to be truthing, and you keep losing when you ought to not bet. You keep saying when you ought to be a changing. Now what's right is right, but you ain't been right yet. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. You keep playing where you shouldn't be playing, and you keep thinking that you'll never get burned. Ha! I just found me a brand new box of matches, yeah. And what he knows you ain't had time to learn. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Are you ready, boots? Start walking.
Mais j'ai rien. Alors je veux une bête à moi.
Eh ben, t'as qu'à acheter un perroquet, comme ça vous parlerez ensemble et tu me foutras la paix.
Et puis d'abord, je veux plus jamais voir ce chien-là dans ma chambre. Miaou, miaou, miaou.
Si tu voyais ta gueule, t'es pas belle à voir. Tu dégringoles de plus en plus tous les jours.
CO2, mon amour, Denis Chessou.
Une émission qui aime les bêtes, vous l'avez parfaitement compris. Troisième plage, troisième page de cette émission, après les plantes d'appartement, après l'Afrique, avec Environnement Magazine, donc mensuel que vous trouvez dans les kiosques, qui s'adresse donc déjà aux gens qui connaissent quand même l'environnement, avec différents titres dans ce numéro du mois de mai, adopter les utilitaires électriques, les PCB, le compte à rebours a commencé, les villes cultivent la biodiversité, et donc nous avons son directeur Charles-Henri Dubail avec nous. On va peut-être commencer par la ville de Metz, parce que d'abord c'est complètement l'actualité. Paoli et Sandra Freeman y sont, on les retrouvera demain matin d'ailleurs aussi en direct, toujours sous ce chapeau chinois, donc cet art moderne avec ce centre Pompidou-Metz. Quand même, on a pensé un peu à l'écologie dans cette affaire-là.
Bien sûr, c'est un bâtiment qui est évidemment HQE, de haute qualité environnementale, qui est intégré dans un écoquartier, l'écoquartier de l'amphithéâtre. Et bien sûr, étant donné que c'est un musée, il faut faire très attention à l'air qui est à l'intérieur et à la température. Il y a une centrale de froid, ce qui n'est pas évident au niveau écologique, donc qui est de haute performance. Et le bâtiment est raccordé au réseau de chaleur de la ville, qui est exemplaire. Et alors, il y a un truc.
Oui.
Il y a un truc particulier.
Les dalles, qu'est-ce que c'est là, j'ai vu,
les dalles, c'est du sulfate de calcium. Le sulfate de calcium, en fait, est issu de la désulfuration des hauts fourneaux.
Ah.
Comme quoi, on arrive à tout recycler.
Donc le déchet devient une matière première, là aussi. Le titre d'Environnement Magazine, enfin, en gros titre, c'est « Les villes cultivent la biodiversité ». Alors on va essayer de ne pas faire mode, hein, quand même, avec cette affaire-là, parce que ça va pas en très grande forme, cette biodiversité. Malgré tout, ça commence à bouger. Quels sont les arguments, en fait, qu'il faut employer auprès des élus, qui comprennent bien l'enjeu, mais quand même, pour que ça fonctionne?
Je pense que une biodiversité qui est plus présente en ville, c'est aussi, ça crée du lien social. Les habitants peuvent être plus heureux d'avoir des espaces verts avec des herbes folles, d'avoir des trams vertes et bleues qui traversent la ville, c'est-à-dire qu'en fait ils peuvent traverser dans un jardin leur ville. Rêvons un peu, mais
oui,
c'est quand même ce qui est en train de se mettre en place dans certaines villes qui sont assez en avance. Et je pense qu'à partir du moment où les habitants sont plus heureux, forcément le service rendu par la collectivité est bon et est avéré, et donc le maire est réélu.
Voilà. Oui, on peut faire un résumé comme ça. Les collectivités locales donc mettent le turbo sur les utilitaires électriques. Là, on a aussi un lien parce que de plus en plus, les services espaces verts et propreté remplacent leur parc thermique. C'est eux, on va dire, les premiers utilisateurs des véhicules électriques.
Oui, mais encore faut-il avoir le bon utilitaire, et le bon utilitaire, c'est quand même quelque chose qui demande du travail, de la technologie assez en pointe. C'est assez simple pour une collectivité d'avoir des utilitaires électriques au niveau infrastructure, parce que vous le mettez dans le garage de la collectivité, généralement il y a du 380 volts, mm-hmm. et donc vous rechargez en 4 heures, c'est plus facile pour des entreprises qui ont des flottes et des collectivités d'avoir des véhicules électriques. Alors les utilitaires qu'on utilise aujourd'hui sont plutôt des outils, ou qu'on est en train de commencer à utiliser, sont plutôt pour des jardins. Même il y a des villes qui l'utilisent pour des zoos, par exemple, pour ne pas déranger les animaux. D'accord. Qui ont peur du bruit.
C'est pour faire un tour aux girafes, aux éléphants, les mettre pas derrière, non, c'est pour ne pas les déranger.
On pourrait essayer, mais c'est pour ne pas les déranger, pour ne pas créer des problèmes de santé derrière. Mais globalement, je pense que chacun apprécie d'avoir une balayeuse électrique qui passe doucement le matin, plutôt qu'une balayeuse qui est thermique et qui fait beaucoup plus de bruit.
Un autre article qui nous a bien intéressé va nous emmener du côté de Besançon. En janvier 2012, la communauté d'agglomération donc du Grand Besançon passera à la redevance déchets incitative afin de nous permettre de diminuer le volume des ordures. Donc on a voulu en savoir plus avec vous, Jean-Pierre Taillard. Vous êtes le vice-président de l'agglomération en charge des déchets. Quel est donc le principe, je le rappelle, ce sera mis en place donc en janvier 2012.
Eh bien, c'est une notion à laquelle on n'est pas forcément très habitué. Elle consiste à imaginer que nous devons tous faire des efforts pour mieux trier, produire moins de déchets, bien sûr, et que le seul moyen réaliste, c'est de responsabiliser chacun pour qu'il fasse cet effort, parce que quelque part, un levier va agir et va forcer la nature, forcer le naturel de chacun.
Ça va être l'argent, ça va être ce que l'on dépense. Exactement. Donc en fait, on se dit que si on met moins de déchets dans la poubelle, on va peut-être payer moins. Donc, alors ça va être quoi? Ça va être un ramassage au poids? Comment ça va se passer?
Alors, si vous voulez, la première idée, c'est déjà de dire que tout ce qui va être trié et qui est recyclable ne va pas être soumis à cette contrôle et à cette incidence financière. Ne sera soumis à la responsabilisation dans les médias que la partie des déchets, ceux qu'on appelle incinérables, ceux qui n'ont pas d'autre destination que l'incinération ou l'enfouissement.
Comment on va faire pour contrôler cette affaire-là? Parce qu'on sait très bien qu'il y a des gens qui peuvent très bien mettre leurs déchets dans des poubelles des autres.
Alors, naturellement, on peut imaginer que quelqu'un mette en place ses déchets dans la mauvaise des deux poubelles, voire dans une poubelle qui se trouverait à côté. Le principe, c'est une phase générale de responsabilisation. Il faut admettre que peut-être il y aura quelques irrégularités dans un premier temps. Mais je dirais qu'on fait appel aussi au sens public. Je dirais tout le monde, quand on consomme de l'électricité, on paye en fonction de la consommation, et tout le monde ne va pas brancher une bretelle sur l'alimentation du voisin.
Heureusement.
Et donc, il faut admettre que les choses, à l'expérience qui a été réalisée dans d'autres lieux en France, eh bien, la raison doit l'emporter, la responsabilité aussi, et le bon sens aussi.
Il va y avoir ce qu'on appelle une petite puce RFID sur les bacs à déchets.
Voilà. Donc, dans chaque bac de chaque citoyen, va être installée donc cette puce qui va permettre, au moment où le bac va être saisi par le camion, d'identifier via un numéro, via un code, d'identifier le propriétaire du bac, donc celui qui est bénéficiaire du contrat. Donc à l'image d'un branchement d'électricité, il y a un numéro de contrat. Ce numéro de contrat est codé dans la puce. Hein. Donc on saura que quand il y a plusieurs bacs au bord de la rue, celui qui est pris en charge à l'instant T, on sait exactement à quel propriétaire il se rattache.
Jean-Pierre Taillard, rappelons une chose. Aujourd'hui, la majorité, c'est à peu près, on va dire, 40% qui part en incinération, 40% en centre d'enfouissement technique. Le reste, c'est du tri et du compost, c'est-à-dire que c'est une faible part. Est-ce que ceci ne va pas déséquilibrer, gérer votre système? Parce que j'imagine bien qu'il y a des incinérateurs à nourrir à côté, qui doivent faire du volume.
Eh bien, mais il se trouve que justement, la situation du Grand Besançon, donc du même du très très Grand Besançon, on a deux incinérateurs. Un qui est relativement récent, qui est assez puissant, et puis un qui est plus ancien, qui est en fin de vie, et qui a une puissance beaucoup plus faible, une capacité beaucoup plus faible. Et la démarche qu'on va mettre en place en 2012 va permettre de ne pas renouveler le petit, le plus ancien, et de fonctionner uniquement avec celui qui est en place.
Donc ça va être une vraie alternative.
L'opération qui va se réaliser va permettre simultanément de réduire les quantités incinérées d'environ 30%, tout en évitant de reconstruire le second incinérateur qui aura atteint sa durée de vie.
Donc on essaye d'être moins dans la société du jetable avec vous. Voilà.
L'objectif, c'est qu'effectivement d'être responsable et d'imaginer que, sachant que le bac des déchets incinérables va être pesé, chaque fois qu'on va mettre un objet dans le bac, de se poser la bonne question. Est-ce que le pot de moutarde, est-ce que le pot de yaourt, est-ce que la capsule en métal que j'ai mis dans cette... ne devrait pas aller dans le bac du recyclage. Donc c'est quelque chose qui va créer un réflexe au départ sous forme d'une contrainte et très rapidement sous forme d'une habitude qui devra aller dans le sens d'un progrès général pour toute la collectivité.
Y a-t-il d'autres pays dans lesquels ça se fait ?
Il y a des applications, si vous voulez, en Allemagne, en Belgique. Hein. Mais il faut savoir que dans ces pays-là, ils étaient très en avance à un moment donné, en particulier avec des systèmes de sacs sur lesquels on plaçait des capsules, des vignettes, en disant quand on dépose un sac au bord de la rue, on met des vignettes. Et ils ont eu quelques difficultés à faire fonctionner parfaitement, puisqu'en fait, c'était plus une redevance au volume qu'une redevance au poids.
Il y a un homme que vous connaissez du côté des Portes d'Alsace, agglomération de 16 000 habitants, qui s'appelle Danny Dittmann, donc qui a fait tout ce travail.
L'originalité par rapport aux Portes d'Alsace, dont vous venez de faire référence, c'est quand dans les Portes d'Alsace, c'est plutôt des zones qui sont à dominante rurale.
Oui.
Il y a peu d'urbains. La particularité du Grand Besançon, c'est que le Grand Besançon, c'est 70% d'urbain et 30% de rural. Et donc, l'aspect un petit peu nouveau, c'est le passage de cette application à un domaine urbain.
Ça va s'appliquer à combien d'habitants, Jean-Pierre Tailleur ?
Ça s'appliquera très exactement à 180 000 habitants dès le 1er janvier 2012.
Merci à vous et donc bonne chance. On se disait, là en vous écoutant avec Charles-Henri Dubail, que c'est souvent les mêmes villes hein, qui sont un peu pionnières. Besançon aussi, il y a quand même beaucoup d'activités dans ce domaine.
Bien sûr, on peut citer Célestat aussi, qui sont vraiment exemplaires. Ouais.
Alors, nous connaissons la voiture de fonction, bien évidemment, mais le vélo de fonction, vous militez, vous, pour le vélo de fonction aussi, dans Environnement Magazine.
En fait, dans votre contrat, lorsque vous signez votre contrat qui est marqué véhicule de fonction, maintenant vous allez devoir demander parce que vous pouvez vous retrouver avec un vélo de fonction.
Et oui, non, mais c'est pas mal du tout.
On milite pour le vélo de fonction. Alors attention, on peut imaginer que ça peut être aussi des vélos à assistance électrique. Hein. Il n'y a pas de mal à ça. Ça demande quand même, il ne faut pas croire que ça demande 300 euros pour acheter le vélo et puis après c'est tout roulé. Non, ça demande quand même un minimum d'infrastructure. Il faut un parc de stationnement qui soit couvert, qui soit sécurisé, un espace pour la réparation. Même des aides, vous pouvez donner des protèges pluie et autres, etc. Et puis, bien sûr, un vestiaire et douche.
Et oui.
Ça change peut-être aussi le lien social dans la collectivité ou dans l'entreprise. En tout cas, les collectivités s'y mettent de plus en plus.
Alors, un sujet qui n'est pas très joyeux, c'est l'interdiction des PCB. Le compte à rebours a commencé pour les collectivités. Ça, vous le retrouverez dans Environnement Magazine. On y reviendra aussi sur ces fameux PCB qui se scotchent un petit peu partout. Donc, on ne sait pas très très bien quoi en faire, même si, bien sûr, on veille à cela. Si ERDF donc, fait attention à ces transformateurs, malgré tout, on est un peu embêté. Juste un tout petit mot, mais vraiment très très rapide. Savoie et Haute-Pluie. Alors, bon, récupération de l'eau de pluie, beaucoup de gens en font, ça c'est pas très original. Qu'est-ce qu'il y a d'original ?
Ce qui est original, c'est qu'un réservoir à eau de pluie, en fait, c'était passif, hein, et ben ça devient actif grâce à un capteur solaire, en fait, des photovoltaïques solaires qui sont couplés au réservoir et qui fait que vous pouvez actionner la pompe ou la pompe s'auto-actionne pour renvoyer dans un réseau ou un autre.
Merci à vous, Charles-Henri Bail. Environnement Magazine que vous trouvez en kiosque, les villes cultivent la biodiversité, donc c'est le thème de ce numéro de mois de mai, et on salue très fort aussi sa rédactrice en chef, Dominique Baumstein. Nous avons terminé, mais oui, me semble-t-il. Merci à Guillaume Roux et Henri Bérec à la technique, à Claire-Sophie Collet, à Jean-Christophe Pinaza et Xavier Pessugia qui réalisaient l'émission.